Charpentière, Catherine Fruchon-Toussaint.
Bonjour à toutes et à tous. Capitale européenne du polar depuis plusieurs années, la ville de Lyon peut s'enorgueillir de réunir la crème du crime à son célèbre festival international, mais aussi d'inspirer les artistes. Ainsi, le cinéaste Bertrand Tavernier, qui avait fait de sa ville natale le décor de son premier film « L'horloger de Saint-Paul », inspiré d'un roman de Georges Simenon. À ce micro, et à Lyon même, lors d'un hommage à l'écrivain belge, il était revenu sur cette adaptation et sur les raisons pour lesquelles il avait transposé l'intrigue dans ses quartiers de prédilection. En souvenir de ce grand réalisateur disparu le 25 mars dernier, nous écouterons en fin d'émission la voix de Bertrand Tavernier, le passionné. Et d'ailleurs, l'univers de notre invité aujourd'hui résonne aussi avec l'un des films de Tavernier, Le juge et l'assassin. Nous en parlerons peut-être. Un auteur qui sera présent à la 17e édition de Quai du Polar, prévue du 2 au 4 juillet prochain, et ce à double titre. D'abord parce qu'il a été lauréat du prix de la nouvelle de la manifestation en 2017, et ensuite parce qu'il vient de remporter le prix Landerneau Polar 2021 pour son premier roman intitulé « La République des faibles », publié aux éditions La Manufacture de Livres, qui se déroule en 1898 à Lyon. La boucle est bouclée. Bonjour Gwenaëlle Bulteau.
Bonjour.
Quel est votre lien avec cette ville de Lyon où vous n'habitez pas pourtant ?
Le lien, il se trouve dans le fait tout simplement que j'aime cette ville, mais au-delà de ça, j'avais envie d'en faire le cadre de mon roman, parce que c'est une ville qui est liée à la modernité de la police. Il y avait dans cette ville, à cette époque-là, en 1898, une police qui dépendait de la préfecture et non pas de la municipalité, ce qui pouvait éviter peut-être des soupçons de clientélisme. C'était une ville qui était aussi connue parce qu'il y avait en son sein un célèbre criminologue qui s'appelait le docteur Lacassagne et à qui on doit les premières études scientifiques et les premières sciences balistiques. Et c'était aussi une personne qui avait fait le portrait psychiatrique d'un célèbre tueur de l'époque qui s'appelait Joseph Vacher, qui était emprisonné à Lyon cette année-là, en 1898.
Et qui est le modèle, justement, du protagoniste interprété par Michel Galabru dans le film Le juge et l'assassin avec Philippe Noiret. D'où le lien entre vos deux univers, et je referme la parenthèse. Et à titre personnel, Lyon, vous connaissez cette ville comme touriste ? Où il y a des liens plus anciens, des liens familiaux.
Je la connais comme touriste. J'y suis allé une fois pour le concours de nouvelles dont vous parliez tout à l'heure. Et je la connais très peu finalement, cette ville. Et pourtant, quand j'ai relu mon texte, quand j'ai relu la première version du texte, je me suis rendu compte que je connaissais plein de choses sur Lyon, ou en fait que j'avais plein d'images qui étaient associées à cette ville. Bon, on retrouve les canuts avec les mouvements de grève, une certaine activité révolutionnaire. On retrouve également le quartier de la Croix-Rousse. C'était quelque chose que moi je lisais étant enfant, le clan des sept, ou les six compagnons plutôt, qui avait un chien également. Et ce chien, ben, on le retrouve aussi dans ce roman. Il y a également le théâtre de Guignol, et il y a quelque chose d'un petit peu guignolesque à la fin de mon livre. Et finalement, Lyon, je le dépeins pas tellement comme pourrait le faire un guide touristique finalement, mais comme toute un réseau d'images que j'avais en tête par rapport à cette ville. Mais c'est quelque chose dont je me suis rendu compte en fait après l'écriture. Comme quoi, il y a plein de choses qui se jouent de manière intuitive.
Entrons dans ce roman, Gwenaëlle Bulteau, un livre qui s'ouvre donc sur la découverte terrible d'un corps d'enfant sans tête dans une décharge, un garçon d'une dizaine d'années qui vivait dans le quartier populaire à l'époque de la Croix-Rousse. Un fait divers sordide sur lequel va enquêter la police. Alors plus exactement, l'équipe du commissaire Soubiel, Jules, comme Maigret ou pas, Ferdinand Grimbert, qui aime bien boire et qui a la main leste sur sa compagne, Aurélien Caron, célibataire, très déterminé, et Gabriel Silan, dandy, proche des milieux antisémites, et bientôt rejoint par un autre brigadier, lui aussi antisémite. Quel tableau de l'époque vous permettent de dresser ces hommes, Gwenaël Bulteau ?
Ce que je voulais faire, c'est que la police soit représentative de la société de l'époque. Et donc, on a des policiers qui penchent vers un extrémisme d'extrême droite. Et on a d'autres policiers qui, au contraire, eux, sont un peu plus progressistes et qui se donnent pour mission de résoudre ces crimes qui sont commis. C'est leur mission première. Et donc, tous ces hommes-là, en fait, ils forment une espèce de cœur dans le roman. Et ce cœur, globalement, c'est un cœur qui chante la violence. Ça me semblait important que ces hommes soient tous, en fait, en train de commettre des actes terribles, parfois dans un souci de justice, parfois gratuitement, mais ils commettent tous des actes de violence parce que c'est, en fait, ce que leur demande la société.
Et donc c'est en effet une période charnière que cette année 1898, on est en plein dans l'affaire Dreyfus. Ce qui est sûr, c'est que vous nous faites aussi le portrait d'une société dans laquelle il ne fait pas bon vivre quand on est femme, quand on est enfant. Et de fait, votre roman développe à partir de ce crime initial dont on a parlé d'un petit garçon, les abus sexuels dont les enfants sont victimes. Petite fille prostituée par ses propres parents, petit garçon proie des prédateurs pédophiles, abus psychologiques également, avec par exemple cette fratrie élevée par une mère infanticide. Est-ce que c'est un sujet, Gwenaël Bulteau, qui vous tient aussi à cœur parce que vous êtes professeur des écoles et que vous enseignez à des classes de primaire, donc face à cette jeune population ici victime?
Oui, c'est quelque chose qui me touche beaucoup, évidemment, par mon parcours professionnel. Et des abus, il en existe toujours. On le voit dans les journaux régulièrement. Et à cette époque-là, les enfants étaient beaucoup moins protégés qu'ils ne le sont actuellement. Donc qu'une jeune fille se prostitue à 12 ans, c'était quelque chose qui était absolument toléré par la société, même si ça dépendait de son milieu d'origine, bien sûr. Un crime commis sur un enfant, c'était pareil à cette époque-là. Les policiers s'en préoccupaient quand ces enfants étaient originaires d'un milieu de gens favorisés, pourrait-on dire. Mais les gens du petit peuple, eux, ça ne dérangeait pas réellement les institutions. Moi, je parle de ça, mais c'est vrai que ça résonne aussi avec des faits d'actualité.
En moins grand nombre, néanmoins.
En moins grand nombre, heureusement, mais ça existe toujours et on entend toujours parler de monstruosités qui se commettent.
Comment est-ce qu'on fait pour écrire ces scènes aussi terribles, Gwenaël Bulteau, en même temps réalistes et nécessaires? Mais vous écrivez, vous racontez la maltraitance des enfants. Quand on est écrivain, est-ce qu'on se fait violence?
Quand je les écris, il y a toujours l'idée de ne pas être dans le voyeurisme. Je peux écrire des scènes crues, des choses qui sont vraiment difficiles à supporter. C'est pour montrer la détresse psychologique, physique, c'est pour montrer la souffrance de ces victimes. Après, moi, mon travail d'écrivain, c'est aussi de faire en sorte que cette scène-là soit logique dans une narration, que ce ne soit pas excessif, que ce soit justifié, pour ne pas basculer dans une succession de scènes d'horreur. Donc c'est tout un équilibre à trouver et ce sont des scènes qui nécessitent beaucoup de travail de réécriture.
Et cette vie quotidienne que vous restituez vraiment au détail près, comment est-ce que vous avez documenté tout ça? Vous vous êtes appuyé sur des archives, sur les travaux d'historiens
Je me suis surtout appuyé sur des travaux d'historiens, notamment de ceux de Dominique Khalifa, qui était spécialiste de cette époque et qui a beaucoup parlé des bas-fonds et de la représentation qu'on a pu avoir des bas-fonds. D'ailleurs, son travail sur la Belle Époque est tout à fait passionnant, surtout quand il dit que la Belle Époque n'était absolument pas belle, et que c'est vraiment un abus de langage, une réécriture de l'histoire, de parler de Belle Époque. Dominique Khalifa était très important. Après, j'ai lu d'autres historiens, et puis il y avait des écrivains comme Zola, bien sûr, qui m'ont un petit peu inspiré.
On va en reparler de Zola, évidemment. Et ces bas-fonds, pour vous, ils sont plus révélateurs de la réalité de la société de cette époque que d'autres milieux?
C'est l'optique que je voulais prendre. Comme donc le titre du roman « La République des faibles », la République est-elle là pour protéger les faibles? Y arrive-t-elle réellement? Donc les faibles, bien sûr, ce sont... On l'a dit, donc les ouvriers, les gens qui travaillent toute la journée pour un salaire de misère, les femmes et les enfants. Et donc, cette optique-là était pour montrer, est-ce que la République, qui dit qu'elle veut protéger les faibles, est-elle capable vraiment de s'en donner les moyens? Est-elle capable d'y arriver? Alors, nous avons fait des progrès indéniables, hein, bien sûr, depuis le 19e siècle, mais je pense qu'il reste encore un petit peu de travail à fournir.
Oui, d'ailleurs, c'est très intéressant parce qu'il y a une ambiguïté hein, dans le titre. Est-ce que c'est la République qui doit venir au secours des faibles, des plus démunis, ou est-ce que la République est dirigée par des personnes faibles, c'est-à-dire qui n'ont pas le cran de vraiment se mettre au travail et de construire une société un peu plus juste? Ce que vous racontez, ce que vous décrivez, Gwenaël Bulteau, c'est un échec?
Alors... La République était encore toute jeune à cette époque-là. Elle est née en 1871. Elle est née sur le massacre de la Commune. Donc c'était un cadre qui restait quand même extrêmement autoritaire. C'est le moins qu'on puisse dire. Et est apparue au bout de quelques années cette notion d'une République qui est là pour se poser finalement, oui, la question sociale en fait. À quoi sert cette République? Est-ce que c'est juste le cadre politique ou est-ce que on peut apporter également un petit peu de mieux-être à ses membres? Et donc là, en 1898, quasiment 30 ans après la naissance de la République, on commence à avoir cette idée-là qui jaillit, poussée un petit peu par quelques syndicats révolutionnaires, notamment, qui exigeaient beaucoup plus vite. Mais ce sont des idées qui sont nées à cette époque-là, et comme toute idée, elles ont mis du temps à se mettre en place.
Alors effectivement, au cours de l'enquête, votre équipe de policiers rencontre différents témoins, donc ce qui nous permet aussi d'aller à différentes échelles sociales, même si on reste toujours dans les quartiers populaires. Et c'est vrai qu'ils rencontrent par exemple un personnage qui s'appelle Désiré Blofsky, qui lui se bat pour une société plus juste, pour un monde meilleur. Il incarne l'espoir social, selon vous, ce qui va se développer dans les années à venir?
Il incarne une voix importante du paysage politique, en tout cas. Une voix qui exprime la solidarité, une voix qui essaie de faire prendre conscience que les prolétaires, les pauvres gens, forment un groupe social à part entière. C'est un personnage qui travaille à faire émerger une conscience de classe à cette époque-là. Et donc, c'est un personnage qui représente des idées importantes, effectivement.
Qui est encore une voix mineure, mais qui va devenir de plus en plus audible.
qui va devenir de plus en plus audible année après année. Il y aura un grand rendez-vous en 1906, le 1er mai, pour la revendication des 8 heures de travail dans la journée. Et petit à petit, les conditions sociales s'amélioreront, petit à petit, pas à pas.
Et d'ailleurs, coïncidence, notre émission est diffusée un 1er mai, qui célèbre aujourd'hui la fête du travail et la journée internationale des travailleurs. Ça tombe très bien. On parlait des avancées sociales. Il y a aussi donc la parole des intellectuels qui peut jouer. En tout cas, ici, vous citez le fameux J'accuse de Zola, qui en effet paraît en janvier 1898, date à laquelle se déroule votre roman. Et c'est un texte, rappelons-le, qui jette un pavé dans la mare des populistes, des fascistes et des antisémites. Vous pensez que les écrivains peuvent aussi faire avancer un tout petit peu les sociétés, comme Émile Zola ?
Zola, lui, s'il a fait ça, c'était effectivement pour jeter un pavé dans la mare et pour finalement aller jusqu'au procès. Comme ça, en allant au procès, il avait une tribune. Est-ce que les écrivains peuvent essayer de faire avancer les choses ? Oui, peut-être, dans une moindre mesure. Ils sont là aussi pour divertir, ne l'oublions pas. Mais je n'ai pas beaucoup d'exemples d'écrivains qui ont vraiment renversé la table pour faire avancer la société. Ils peuvent apporter leur petite pierre, bien sûr, mais...
Avec un éveil des consciences ?
Avec un éveil des consciences, si beaucoup d'écrivains le font, pourquoi pas, ça peut amener certaines choses, mais...
Et vous, Gonald Bulteau, est-ce qu'il y a des écrivains qui vous ont accompagné, qui vous ont inspiré, qui vous ont fait un peu changer aussi, peut-être ? Ou tout simplement donner le goût de l'écriture ?
Alors moi, j'aime beaucoup cette auteure américaine qui s'appelle Joyce Carol Oates. Et c'est vraiment quelqu'un que je lis avec beaucoup de plaisir. J'apprends toujours beaucoup de choses, évidemment. Et elle a ce flow, elle a ce rythme dans l'écriture assez extraordinaire. Et elle m'apprend tellement de choses sur l'Amérique et l'histoire de l'Amérique que oui, c'est quelqu'un qui est très important, moi, dans mon parcours intellectuel.
Et qui raconte l'Amérique aussi par le prisme de ses dysfonctionnements.
De ces dysfonctionnements, effectivement.
Dont certains faits divers, certains meurtres, mais pas seulement.
Pas seulement, exactement. Mais elle a une palette tellement large d'écrits qu'il est difficile de parler de Joyce Carol Oates en quelques minutes.
Et ça fait partie des auteurs qui ont pu vous donner le goût de l'écriture ? Parce que là, vous en parlez comme lecteur admiratif.
Comme lecteur. Et le goût de l'écriture, oui, définitivement. Mais après, le goût de l'écriture, je pense que il était en moi ancré depuis très très longtemps. Depuis que j'ai appris à écrire, je pense. C'était quelque chose qui, moi, me plaisait beaucoup d'exprimer des sentiments, des sensations par l'écriture.
À défaut de changer le monde, l'écriture peut aussi rendre hommage à ceux et celles qui le font bouger. À l'instar de cette femme, Albertine, qu'un de vos personnages compare à une aventurière. Et voici ce que vous lui faites répondre. Nous sommes presque à la fin du roman. Je dirais plutôt que je me bats depuis toujours contre l'hypocrisie de ce monde envers les femmes, l'église, le mariage... Les bonnes mœurs, les femmes ne doivent surtout pas s'en écarter. Malheureusement, ce n'est pas mon cas. Libre à vous de penser que cela fait de moi une aventurière. Et en écho, une autre femme, 3 pages plus loin, dit cela aussi. C'est une belle idée de mettre le droit au service des individus sans défense. Malheureusement, et croyez-en ma longue expérience de femme, cette conception n'a jamais été d'actualité. Fermez les guillemets. Est-ce que cette conception est aujourd'hui d'actualité, Gonald Bulteau, ou pas ? Ou toujours pas ?
Elle l'est un peu plus, quand même, reconnaissons-le. Mais c'est vrai que dans la question de l'égalité femme-homme, il reste encore du travail à fournir.
Et pour le droit des enfants aussi ?
Et pour le droit des enfants également, bien
Donc
sûr.
Vous avez l'impression que les combats ne sont toujours pas arrivés à terme ?
Ah non, je pense qu'il faut continuer à lutter, effectivement, pour arriver à cette égalité et à cette protection des plus faibles.
Merci beaucoup, Gwenaëlle Bulto, d'être venu nous parler de ce premier roman, La République des Faibles, qui a paru aux éditions La Manufacture de Livres. Et je vous propose maintenant, comme annoncé au début de cette émission, de retrouver Bertrand Tavernier, le Lyonnais, amoureux de littérature et de cinéma, et ce dès son premier film, L'Horloger de Saint-Paul, d'après Simenon, un entretien enregistré à Lyon, évidemment, avec le cinéaste qui, hélas, nous a quittés en mars dernier.
Oui, c'est moi.
Officier de police Bricard. La camionnette 5763Y69, c'est à vous?
Oui, pourquoi?
Elle avait disparu?
Disparu, non. Enfin, c'est-à-dire qu'hier soir, quand je suis rentré, elle était plus devant chez moi. J'ai pensé que mon fils l'avait prise, quoi. Il y a eu un accident?
Si on veut. Votre fils n'est pas blessé, c'est tout ce que je peux vous dire.
Bon, bah tant mieux.
Votre fils a tué un homme. La victime, un nommé Razon, était un type important dans l'usine où travaillait la fille Torini. Un témoin les a vus mettre le feu à la voiture et filer avec la camionnette. Il a relevé le numéro. On est arrivé jusqu'à vous. C'était pas difficile.
C'est pas vrai.
Vous pouviez pas dire autre chose.
Votre fils a été arrêté.
Où ça?
Dans l'île de Bréa.
À Bréa?
Côte du Nord. Ils avaient bêtement laissé leur voiture au parking en face.
Monsieur Descamps, je voudrais être sûr d'avoir bien entendu. Voulez-vous répéter?
Je suis entièrement, totalement solidaire de mon fils.
Bertrand Tavernier, quel est votre premier souvenir d'un livre de Georges Simenon?
Je pense que ça doit être un des Maigret que j'avais pris dans la bibliothèque de mon père. Alors, je ne sais pas lequel. Peut-être Piotr le Letton, peut-être Maigret à New York, ou une erreur de Maigret. Et puis après, ça a été très vite des romans dits plus noirs, des romans comme La neige était sale, ou le fils cardinal, les complices. Je crois que c'est un des premiers que j'ai lu, c'était Les complices.
Et en quoi c'est une lecture qui tout de suite vous a marqué?
C'est-à-dire que Simenon vous empoigne souvent dès le premier paragraphe, dès la première phrase, et vous entraîne dans des atmosphères, il vous fait connaître des personnages qui sont très forts, des sentiments très, qui sont d'autant plus forts que tout est dépouillé, tout est à la fois dense, très elliptique, et qu'on a toujours l'impression d'être au cœur des émotions, souvent dès la première phrase. Moi, ce qui m'avait frappé, c'est que les premières phrases, les premiers paragraphes chez Simenon sont souvent extraordinairement frappants. La première phrase de La Veuve Coudert, c'est « Il marchait ». Vous ne pouvez pas faire plus dépouillé que ça. Et en même temps, tout de suite, vous avez envie de savoir qui marchait, pour aller d'où à où. Il élague, Simenon, il coupe, il va très vite au cœur des choses. Et parfois, il débusque des vérités qui ne sont pas agréables à voir, hein. Les personnages, il y a des personnages acariâtres, il y a des atmosphères rances, des choses. Mais en même temps, il y a une immense vérité humaine. Alors, un certain pessimisme aussi, pas dans tous. Il y en a certains qui sont moins noirs, moins pessimistes qu'on le dit. Et moi, j'avais trouvé qu'il y avait un espoir tout à fait réel dans L'Horloger d'Everton, que j'ai adapté, qui est devenu L'Horloger de Saint-Paul.
Arrivons-en en effet à ce premier film que vous réalisez, Bertrand Tavernier, en 1974. Dans cette œuvre, considérable de Georges Simenon, que vous connaissez bien, donc. Vous choisissez, non pas d'ailleurs une des enquêtes de Maigret, mais l'horloger de Saint-Everton, qui se déroule aux États-Unis, et que vous, vous adaptez dans votre ville natale, Lyon, donc, avec Philippe Noiret et Jean Rochefort. Pourquoi ce texte en particulier avait retenu votre attention ?
C'est très difficile de savoir qu'est-ce qui déclenche en vous l'envie de faire un film. Est-ce qu'il y a eu une page spécialement dans le livre ? Est-ce que le sujet, les rapports entre un père qui va petit à petit se solidariser avec l'acte incompréhensible de son fils, l'acte de violence de son fils, est-ce que ça... Ça éveillait en moi des sentiments liés à des rapports familiaux, à quelque chose. Je sais pas. J'aime pas trop me psychanalyser et psychanalyser ça, mais je sais que j'ai tout de suite répondu, moi, de manière forte au thème de ce livre. Et tout de suite, j'ai eu l'idée de le transposer dans ma ville natale Ça me donnait des assises, ça me donnait des lieux que je connaissais, c'est tellement déjà difficile de faire un film, c'est tellement difficile de faire un premier film, vous avez besoin de trouver des appuis. Et le fait de tourner dans une ville que j'aimais beaucoup et qui m'avait marqué, je savais que ça m'inspirerait. Parce qu'il y avait des choses que je percevais sur Lyon, et je trouvais que Lyon était une ville simenonienne. Et que même si j'avais décidé, en adaptant l'horloger de Saint-Paul, de me priver de tout ce que certaines personnes considèrent comme l'essence de Simenon, à tort et de manière superficielle, c'est-à-dire le brouillard, les pavés humides, la pluie, ces atmosphères un peu lugubres, puisque j'ai tourné dans une ville secrète, j'ai tourné en août, j'ai tourné en été, il y avait du soleil dans la plupart des plans. Et malgré ça, on peut dire que l'essence des thèmes de Simenon ne pâtit pas de ce traitement. On s'aperçoit que c'est tellement fort qu'à la limite, je finissais par dire, c'était un peu une provocation, que la brume, la pluie, c'était presque pour lui... C'est devenu une sorte de facilité pour amener un peu son empreinte, mais qu'on pouvait s'en passer et que ce dont il parlait restait toujours aussi fort. C'est-à-dire des rapports humains très, très, très aigus, très avifs. Et voilà, c'était ce qu'il fallait aller dénicher, là.
Ce contact avec Simenon vous a marqué comme réalisateur, puisque dans Une semaine de vacances, en 1981, autre de vos films qui se passe à Lyon, là, dans une scène, vous mettez Nathalie Baye, votre actrice principale, en présence de l'horloger de Saint-Paul, qui donc a vieilli et qui déjeune avec votre actrice et Michel Galabru. Il ne vous quittait pas, ce personnage de Simenon ?
Je l'avais adoré, ce personnage. Ce personnage qui faisait un tout petit pas pour aller vers en direction de son fils, qui disait à la fin « Je suis solidaire de mon fils ». Là, il cherchait pas à l'excuser. Oui, il avait fait un crime, mais peut-être qu'il y avait des raisons pour ça. Et j'ai eu envie de le retrouver, oui, voilà. C'était quelqu'un que j'aimais bien, et que c'était comme un ami cher, que vous avez du plaisir à inviter chez vous. Donc je l'ai invité dans mon film, pour qu'il rencontre d'autres personnages et que ça m'a donné lieu à une scène justement très réjouissante. Et oui, c'était le désir de revoir un personnage que j'adorais.
Merci beaucoup, Bertrand Tavernier. Carrefour de l'Europe.